Oh que oui, 10h07 avec un peu de retard, c'est le point de max qui s'amorce. Et contrairement à ce matin, dans Marceau le matin, ce retard-là, il est pas de ma faute, mais c'est correct, je peux pas ben en vouloir à Jeff et à Marceau d'avoir repoussé un peu le début du point de max. D'abord parce qu'il y avait eu une entrevue d'excellente qualité. Si vous l'avez manqué, ça va se retrouver sur le blvd.fm. Mais aussi parce que justement, j'ai fait une faute grave ce matin. On s'en reparle dans les prochaines minutes parce qu'il faut immédiatement se diriger sur la route Henri IV Nord. L'accès par le boulevard du Parc technologique s'est partiellement entravé en raison d'une panne. Et vous mentionnez qu'encore présentement, à 10h07, ben, l'accès au pont Pierre-Laporte, c'est assez tough là, par la 73. C'est encore bouché à partir de la rue Beaulieu. Fait que autant ça a super bien été lundi à circulation, malgré la manifestation des camionneurs, ben autant les derniers jours, mardi, mercredi, puis aujourd'hui, jeudi, c'est pas mal plus tough. 418-971-101, numéro pour me rejoindre en studio. Il y a toujours également le Twitch où vous pouvez réagir en direct avec la belle communauté qui est sur Twitch, BLVD, barre en bas, FM. On va faire la météo tout de suite. 13 degrés. À Québec, on attend 15 aujourd'hui avec des averses. Demain, vendredi, c'est 21 degrés avec 40% de possibilité d'averses, mais après un très beau week-end. Samedi, 19, gros soleil. Dimanche, 23, avec alternance de soleil et de nuages. Puis après ça, pour lundi, mardi, mercredi, c'est du soleil. Lundi, c'est quand même un 23 degrés. Mardi, 18. Mercredi, 16. Ça baisse graduellement, mais à un moment donné, tu sais, mercredi, on va être rendu au 1er octobre. C'est comme normal qu'on va plus avoir des 28 degrés chaque jour. Je considère qu'on a déjà été assez chanceux en septembre avec la météo. Fait que, c'est ça. J'ai pas le choix de commencer le show ou à peu près en vous lisant un communiqué de presse qui a été envoyé par Leclerc Communication. Dans les dernières minutes, ça va comme suit. Boulevard 102 annonce qu'elle réprimande l'animateur Max Larouche après qu'il soit arrivé en retard au travail jeudi. Alors que Marceau le matin débute à 6h, Larouche est plutôt arrivé en studio à 7h10. Une situation évidemment inacceptable. Je cite Steven Croateau, directeur de marque chez Leclerc Communication. Après plus de 4 ans chez Leclerc Communication, c'est une première faute grave pour Max avec nous. Malgré tout, la direction doit sévir. C'est pourquoi Max devra faire du temps supplémentaire. Il sera en onde demain, vendredi, de 5h45 pour offrir un bulletin de nouvelles aux auditeurs avant que Marceau le matin débute à 6h. Monsieur Larouche, le principal intéressé, offre ses sincères excuses à tous ceux qui ont été déçus par son comportement. Ça, c'est moi, je me cite. « Mon cadran n'a pas sonné, mais c'est de ma faute. J'ai vraisemblablement mal manipulé mon téléphone en voulant changer mon cadran pour 3h30 à la place de 3h40. Je mérite la réprimande et je serai en onde à 5h45. » Celui qui anime aussi le point de max des 10h tient à préciser qu'en se réveillant à 6h59, il était en studio à 7h10, ce qu'il considère très impressionnant. Ça, je vais me le donner là, pour un gars qui s'est levé en panique à 6h59. D'avoir les deux pieds dans le studio à 7h10, c'est quand même fort. Yannick Marceau, célèbre animateur de Marceau le matin, n'en veut pas à son collègue, mais est satisfait qu'une conséquence lui soit imposée. Il dit « J'ai moi-même proposé l'idée du temps supplémentaire. Les patrons voulaient le suspendre, mais ça aurait été trop facile pour lui de continuer à se reposer. Les maudits jeunes comme lui font juste ça, ne pas travailler. » Là, il va travailler pour vrai. Enfin! Ne manquez donc pas Max Larouche en ondes vendredi 26 septembre dès 5h45 pour l'émission spéciale Le Temps supplémentaire. Ça vous est déjà arrivé là, d'arriver en retard à la job? J'imagine. Mais ouais, c'est ça. Non, je l'ai échappé, puis on fait des blagues avec ça parce que c'est arrivé, qu'est-ce que vous voulez, puis c'est pas une histoire de brosse. Là. J'étais dans mon lit à 8h hier soir, puis à 10h, je dormais. Mais, tu sais, la maudite technologie, c'est la faute à mon iPhone. Je voulais, tu sais, la vraie de vraie histoire, là, puis ça reste tout autant de ma faute en passant, je me défile pas, c'est juste c'est ça qui est arrivé, puis je l'explique, là. Je veux prendre le temps maintenant de déjeuner le matin. Fait que au lieu de mettre mon cadran à 3h40, ben j'ai voulu le mettre à 3h30. Mais j'ai vraisemblablement retiré l'alarme de 3h40 sans mettre l'alarme de 3h30. Fait que ça a comme fait que je n'avais plus d'alarme dans mon téléphone. Puis qu'à 6h59 ce matin, ben pile, ben j'ai ouvert les yeux. J'ai trouvé que j'avais passé une tabarouette de belle nuit. Tu sais, quand tu te réveilles, tu fais « Hey, j'ai donc ben ben dormi, je me réveille avant mon cadran, la vie est donc ben belle. » Et là, tu checkes l'heure. Puis tu te rends compte que toi, d'habitude, t'es à job à 4h30 gros max. Puis que là, tu vois 6h59. Et tu vois appel manqué de Jeff Fortin, appel manqué de Marceau, Véronique Bergeron qui te demande « T'es-tu correct? » Là, tu te rends... Catherine Bachand aussi, la collègue de Week-end avec qui je travaille de très près le matin pour les nouvelles, qui me demande « Hey, tu m'as laissé tomber à matin? » Là, tu fais « Ah, oh, tabarouette, qu'est-ce que j'ai fait là? » Et là, ben, tu te rends compte que, assez rapidement, tu te rends compte qu'il y a eu problème. Fait qu'à 6h59, call le Uber, parce que même si j'habite à côté, venir à pied, j'aurais pu venir à la course. Un, je serais arrivé bien essoufflé, puis je serais resté essoufflé pour le reste du show. Puis deux, ben, le Uber allait être une meilleure option, clairement. Fait que call le Uber, se brosse les dents, met le premier linge qui est sur le bord, puis away à job. Puis j'étais là à 7h10, mais là, vous comprendrez que la préparation, d'habitude, c'est quand même une heure et demie que je n'avais pas. Bref, je prends le blâme, ça n'arrivera plus. Je prends acte de la conséquence qui se pointe devant moi. Donc, je serai au travail demain. Oui, 4h30 pour me préparer, mais 5h45 en onde avec l'émission spéciale « Le temps supplémentaire ». Ma conséquence pour ne pas être pointé, pas m'être pointé à temps ce matin. Beaucoup de textos, c'est l'Uber qui a été ton sauveur finalement. Ouais, l'Uber très 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 rapide. Sam qui dit le problème, Max, c'est que ton cell, c'est un iPhone. Avec un Android, t'aurais pas eu ce problème-là. Je blâme tes choix de vie. Ouais, non, l'humain derrière reste le même. Puis clairement, c'est une mauvaise manipulation de ma part à moi. Ha ha ha, Chris Max. Ha ha ha. Ha ha, c'est bon ça. Ok, Vincent trouve ça bien drôle. Audrey, t'as pas réveillé. C'est pas parce que t'avais pensé, elle dormait aussi, je comprends pas trop, là. J'étais pas avec Audrey, non. Je vais t'écouter Max vendredi, parfait. Christian, c'est la faute du Tylenol. Ouais, j'aurais dû, ça aurait pu être quand même une l'excuse. Excuse-toi pas, mais recommence pas. Je m'excuse et je ne recommencerai pas. Bref, merci d'être là quand même et de continuer à me faire confiance dans le Point de Max à Boulevard, où on va recevoir dans les prochaines minutes Véronique Dallaire, qui est candidate de Québec d'abord, le parti de Claude Villeneuve, dans les saules, les méandres. On va jaser de la demande ce matin de Québec d'abord aux dirigeants de la première Ligue canadienne de soccer de considérer Québec dans leur projet d'expansion. Je pense que les partisans de soccer à Québec sont pas nécessairement bien très, très gâtés. Et bon, tu sais, en football, on a le rouge et or, hockey, on a les remparts. Mais c'est vrai que le soccer est tellement rendu populaire à Québec que ça pourrait être cool d'avoir du gros soccer de bonne qualité. J'ai même pas nommé là-dedans le baseball, en plus, qui est très, très, très bien servi avec les capitales de Québec. Bref, on en jase avec Véronique Dallaire dans les prochaines minutes, pendant que les textos continuent à entrer. Tu es un mauvais manipulateur, je la comprends pas. On va être là demain. As-tu mis ton alarme en PM? Des fois, ça m'arrive. Non, je pense vraiment juste que j'avais malheureusement pas mis d'alarme. Je sais pas comment ça s'est passé. Je suis content, j'aimais beaucoup la première partie. Ouais, c'est un peu le retour de la première partie. Demain, Nancy qui me pardonne. Merci, Nancy. Philippe, tu demeures un excellent animateur. C'est très gentil quand tu es au beau travail. Ça fait jaser. En effet, ça fait jaser. Puis je sens que j'ai pas fini d'en entendre. D'en entendre jaser. Dans l'actualité ce matin, le service de police de la ville de Québec qui met en garde la population contre un stratagème de fraude impliquant de faux billets canadiens. On nous dit que c'est plus d'une vingtaine de cas qui ont déjà été signalés depuis le début du mois dans diverses transactions. Puis les autorités rappellent qu'il n'est jamais obligatoire d'accepter un billet douteux, qu'il est toujours possible d'exiger un autre mode de paiement. Je suis le seul qui prends jamais le temps de checker ça, mes 20$. Puis je veux dire que la technologie, à cette heure, j'imagine que les faux 20$ doivent drôlement ressembler aux vrais 20$. Puis là, tu sais, à un moment donné, c'était beaucoup les 100$ qui étaient visés, tellement qu'il y a des magasins qui avaient carrément arrêté de prendre les 100$, tellement il y en avait de contrefaçons qui était en circulation. Tu sais, moi, tu mets un faux puis un vrai entre les mains. Je suis pas sûr que je suis capable de dire la différence entre un vrai puis un faux billet. T'sais, on nous les donne, les différences, là, dans le communiqué du SPVQ. L'identifiant unique de chaque billet, la présence de chiffres miniatures dans la bande translucide, la correspondance du portrait, les chiffres cachés dans la feuille d'érable, le portrait métallisé changeant selon la lumière, le relief perceptible de l'impression. Mais pour tout voir ça, faut que tu le checkes, ton 20$, là. Y en a-tu qui prennent le temps? Puis y en a-tu par texto 88-971-1021 qui sont fait avoir ou qui ont marqué qu'il y avait comme entre leurs mains des faux 20$, des faux 100$? Je suis quand même curieux parce que semble-t-il qu'il y a des cas qui sont en train de se multiplier ici à Québec. Je parle du patron Rocamado parce qu'on a besoin d'aide du côté du patron. On demande de l'aide de la population. On s'est parlé plus tôt cette semaine d'un incendie qui a quand même fait de lourds dommages. On nous dit qu'on a perdu à peu près 100 000 piastres de nourriture qui devait aller à de l'aide alimentaire. On devait nourrir 400 familles chaque semaine jusqu'à Noël. Là, ce qu'on a comme information, c'est que jusqu'au 3 octobre, on a dû se rendre à l'évidence, là, ce ne sera pas possible de reprendre les activités à ce niveau-là. On a reçu l'appui de Moisson Québec pour la distribution alimentaire qui sera faite de façon réduite. Mais on a besoin d'aide du côté du patro Rocamado. L'incendie qui a été déclenché dans une section du toit qui était en travaux. On parle d'importants dommages, un toit affaissé, une cage d'escalier qui a été carrément détruite. Et dans le bâtiment, ben, on a habituellement un CPA de 78 places. Il y a un service pour adultes autistes aussi, des personnes âgées avec déficience intellectuelle qui bénéficient de certains services également, des activités sportives communautaires. Fait qu'on espère que le patro Rocamado va être en mesure de se remettre sur les pattes assez rapidement. La campagne électorale de Sam Ahmad. On en parle beaucoup depuis quelques semaines, avant même le début officiel de la campagne électorale. Le départ est assez lent, disons-le comme ça, pour ne pas dire raté. Puis vraisemblablement, il n'y a pas juste les observateurs et la population qui s'en rendent compte parce que selon des informations qui ont été obtenues par Nouveau Info, Leadership Québec a convoqué hier une réunion d'urgence en ligne pour rassembler les candidats, les employés et procéder à un recadrage. On reconnaît à l'interne que c'est un début de campagne qui est difficile. On dit que le message passe pas, le climat qui serait insécure, ébranlé. Il y en a plusieurs qui pointent du doigt une couverture médiatique jugée trop favorable à Bruno Marchand. Ça, c'est pas la première fois qu'on l'entend, mais quand même, on se rend à l'évidence qu'il n'y a pas juste la couverture médiatique. Il y a des difficultés. Notamment, tu sais, ce qui s'est passé avec Napoléon Roux, c'est sûr que c'est venu changer possiblement le calendrier. On dit qu'il y avait une annonce qui est prévue que finalement, ben, on ne faisait pas. Semble-t-il que pour l'instant, Sam Ahmad n'a pas prévu s'adresser aux médias avant la semaine prochaine. D'après moi, on est en train de tout replacer la stratégie, puis on va vouloir repartir du bon pied. Mais pour l'instant, c'est pas facile pour l'équipe de Sam Ahmad. Pour ce qui est de Bruno Marchand, lui, il promet une immense opération d'asphaltage qui vise à refaire 400 km de chaussée en 4 ans, dont 300 km dans les secteurs périphériques. En ce moment, là, c'est à peu près 50 km par année qu'on réasphalte. Et bon, semble-t-il qu'on trouve ça insuffisant du côté de Bruno Marchand. S'engage à doubler le rythme pour atteindre 100 km par année s'il est réélu. Le coût de cette promesse-là, on ne l'a pas encore. On va l'avoir quand on va dévoiler le cadre financier. Marchand qui a profité de sa sortie pour critiquer au passage Sam Ahmad, qu'on n'a pas beaucoup vu là, depuis la fameuse controverse de Napoléon Roux. Le chef de Québec d'abord, Claude Villeneuve, lui qui a annoncé hier qu'il voulait supprimer des cadres du côté du RTC pour permettre une meilleure gestion des fonds publics. En entrevue à Radio-Canada, il a proposé un nouvel audit financier réalisé par la Ville qui comprendrait une révision des trajets d'autobus. Comme je vous disais ce matin, l'équipe de Claude Villeneuve demande aussi aux dirigeants de la Première Ligue canadienne de soccer de considérer Québec dans leur projet d'expansion. Et à ce sujet-là, on va parler avec la candidate Véronique Dallaire dans les prochaines minutes. Du côté de Stéphane Lachance, chef de Respect citoyen, ben, il était aussi en entrevue à Radio-Canada hier, où il a dénoncé la perte de stationnement et l'omniprésence des pistes cyclables à outrance. Il veut restaurer les valeurs où Québec a toujours évolué. Pour ce qui est d'Anne Guérette, Anne Guérette, qui souhaite devenir mairesse, ne présente pas d'autres candidats, là, à part un colistier, ben, elle propose la construction d'un quatrième lien avant le troisième lien. Au niveau des communications, je peux comprendre ce qu'elle a essayé de faire, parce que ce qu'elle dit, c'est que elle veut que les gens comprennent. Je vais vous l'expliquer, là, le quatrième lien, là, ce serait dédié au transport en commun de centre-ville à centre-ville. Puis ça, elle ferait avant le troisième lien. Fait qu'elle ferait le quatrième lien avant le troisième lien. Mais elle a appelé ça le quatrième lien pour que les gens comprennent que c'est pas son projet de troisième lien. Parce qu'en plus du projet de troisième de quatrième lien, ben après, elle veut faire son projet de troisième lien qui serait autoroutier. Est-ce qu'on se suit? Je sais que j'en ai perdu une coupe, mais c'est un peu ça, j'ai l'impression, le petit enjeu de communication, de dire « Je vais faire un quatrième lien ». Avant le troisième lien. Mais il va avoir les deux. Puis c'est pour ça que je vous parle du quatrième avant le troisième. Je pense qu'Anne Guérette perd pas mal de monde avec ces idées-là. Mais en gros, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Anne Guérette et son parti du monde, ben, il y aura deux projets. Un autoroutier et un pour le transport en commun. Je vous parle aussi du protecteur de l'intégrité en loisirs et en sport du Québec, qui est en poste depuis seulement trois ans. Bien, il a déjà reçu Il a déjà reçu 222 plaintes et signalements. C'est Radio-Canada qui nous en parle ce matin. On parle surtout d'allégations de violence psychologique, de représailles, de négligence. La violence psychologique, là, c'est à peu près 42 % des cas. Des exemples cités par le protecteur, crier, de l'intimidation, mettre de côté quelqu'un, humilier une personne, les violences physiques font aussi partie des situations qui lui sont rapportées. Selon les données préliminaires qui datent du 9 septembre, les proportions se répartissent par environ 70 % des plaintes, donc venant directement de la personne concernée. Et l'autre 30 % de signalement, ben, ça provient de témoins de situations qui les préoccupent. Selon Hugo Lafontaine, là, qui occupe le poste de protecteur, ben, il y a un accent qui est mis sur la performance parfois dans les loisirs, dans le sport, puis malheureusement, des fois, ça se fait au détriment de l'intégrité physique et psychologique des personnes qui vont pratiquer ces sports-là. François Legault qui a durci le ton hier envers les médecins menace d'adopter une loi spéciale pour mettre fin aux moyens de pression. Le premier ministre qui a dénoncé la suspension des cours dans les facultés de médecine décidée par la Fédération des médecins spécialistes du Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui s'oppose au projet de loi 106, réforme qui lie une partie de leur rémunération à l'atteinte de cibles de performance. Selon M. Legault, les fédérations qui refusent de négocier depuis l'été, préférant faire pression sur les étudiants en médecine. Les syndicats qui nient ces accusations-là, mais le chef de la CAQ qui a martelé « cassé, c'est assez ». Quelques heures plus tard, les ministres Christian Dubé à la Santé et France-Hélène Duranceau au Conseil du Trésor qui ont proposé une médiation. Contrairement à l'arbitrage qu'on demande du côté des médecins, c'est un processus qui viserait à faciliter le dialogue, mais sans décision contraignante. Fait que, arbitrage, ben, on va arriver avec quelque chose, puis ça va être ça. Médiation, c'est on va jaser, mais mettons que le médiateur arrive avec une proposition, on n'est pas obligé nécessairement d'aller là. Québec qui demande donc que les syndicats suspendent leurs moyens de pression et acceptent les principes du projet de loi. Mais du côté des syndicats, ce qu'on dit, c'est non, tant qu'il y a un projet de loi, ben il n'y aura pas d'entente, on jasera même pas. Et je termine avec ça. Karl Malenfant, architecte du projet Saclic, a conclu hier son témoignage de 6 jours devant la commission Galland en affirmant n'avoir jamais volé personne, souffrant d'un cancer du rein. Il avait même reporté une opération pour comparaître. L'ex-vice-président à l'expérience numérique de la SAC qui a rappelé avoir occupé un rôle ingrat, devenant un genre de paratonnerre en cas d'erreur, mais a insisté sur le caractère collectif des décisions entourant le déploiement raté de la plateforme. Malenfant soutient que ses équipes ne lui ont pas transmis des informations complètes et évoque aussi une erreur d'un technicien basé en Inde qui devait activer le système. Au sport, troisième match préparatoire pour le Canadien de Montréal qui tentera de rester parfait. C'est face aux Maple Leafs de Toronto au Centre Bell. Du côté de la LHMQ, les Remparts de Québec qui visitent les Huskies de Rouyn-Noranda ce soir et demain avant d'affronter les Foreurs de Val-d'Or samedi. C'est un 3-3 pour les Remparts. Dans la NFL, les Seahawks de Seattle, mais Seahawks qui visitent les Cardinals de l'Arizona. Et au baseball, les Blue Jays Rays de Toronto qui se sont inclinés 7-1 face aux Red Sox de Boston. Autre affrontement entre les deux équipes ce soir à 19h. Dans les prochaines minutes, normalement, Véronique Dallaire de Québec d'abord s'en vient en studio pour une petite jasette. Soccer, on veut du soccer de bonne qualité à Québec. On a du hockey avec les Remparts, on a le Rouge et Or au football, on a les Capitales au baseball. Mais au soccer, on sent qu'il y a un manque. Le point max. 10h34 minutes dans le point de max à boulevard 102.1. Il y a des problèmes sur les routes encore. Là, 4 Nord, l'accès par le boulevard du Parc technologique, c'est partiellement entravé en raison d'une panne. Même l'accès au pont Pierre-Laporte, direction Nord, présentement, il y a encore de bons problèmes. Là, en arrivant par la 73, c'est un peu passé rue Beaulieu que ça commence à ralentir. Ailleurs, à Québec et sur la Rive-Sud, ça semble encore assez bien aller. S'il y a quoi que ce soit, 88-971-1021, c'est 13 degrés présentement à Québec. On attend 18 aujourd'hui avec de la pluie. Demain, il y a un 40% de possibilité d'averse, mais on pourrait avoir un peu de soleil aussi avec un 21, mais après ça, c'est que des belles journées. Samedi, 19 degrés, gros soleil. Dimanche, 23 degrés, alternance soleil-nuage. Lundi, mardi, mercredi, c'est que du soleil également. Fait que pour se diriger vers le mois d'octobre, on va être assez gâtés. Je vous l'ai mentionné à quelques reprises depuis le début du show. Québec d'abord, le parti de Claude Villeneuve, demande aux dirigeants de la Première Ligue canadienne de soccer de considérer Québec dans leur projet d'expansion. Pour en parler, on reçoit Véronique Dallaire, elle est candidate de Québec d'abord dans les saules, les méandres. Madame Dallaire, ça va bien?
Oui, ça va bien, toi?
Oui, merci beaucoup. Pourquoi faire cette demande-là à la Ligue, à la Première Ligue canadienne de soccer? Là, il y a Montréal qui va avoir son équipe. On en veut une aussi à Québec, puis c'est pour ça qu'on sort aujourd'hui.
Oui, bien en fait, c'est pas la première fois qu'on amène cette idée-là sur la place publique, mm-hmm. dans la sphère publique. Je sais pas si vous étiez présent lors de la partie d'exhibition là, qui a eu lieu au Stade TELUS à la fin du printemps, où on a voulu, en fait, la Ligue, la Première Ligue canadienne, voulait tester l'engouement de la Ville de Québec pour la venue d'une équipe professionnelle. À ce moment-là, Claude et moi avions eu des discussions avec les dirigeants de la Première Ligue canadienne. Ils nous avaient confirmé l'intérêt d'implanter une concession à Québec.
Fait qu'il y avait déjà un intérêt.
Il y avait déjà un intérêt. C'était sous la pluie battante, puis l'audience qui s'est présentée atteignait quand même les objectifs. Donc, on s'est dit, OK, on a le feu vert. Donc, nous, comme opposition officielle, on voulait avoir la légitimité d'approcher des partenaires financiers, d'aller chercher l'ensemble des acteurs qui veulent une équipe professionnelle à Québec. Donc, j'avais proposé à ce moment-là la formation d'un comité transpartisan pour dire, écoutons, là, c'est pas un dossier de parti, là. C'est un dossier pour la communauté, pour la population de la Ville de Québec. Travaillons-le ensemble parce qu'on veut une concession. Et la réponse qu'on avait eue à ce moment-là de la part du maire Marchand, c'est de dire, je m'en occupe, j'ai pas besoin des autres.
Donc okay, fait que Bruno Marchand est en faveur aussi, mais il voulait faire ça tout seul.
Bruno Marchand a refusé la mise en place d'un comité transpartisan en disant « on s'en occupe, on va faire arriver ça ».
Ça sert à quoi, mettons, pour monsieur, madame, tout le monde qui écoute? C'est-tu vraiment utile, un comité transpartisan, ou bien le maire Marchand, ben lui, pour lui, c'est peut-être plus simple même de le faire tout seul, puis un comité transpartisan, c'est plus compliqué. Mettons qu'on essaie de comprendre un peu sa game, pourquoi il a voulu prendre ça sur lui.
Notre avis à nous, à Québec d'abord, c'est pour en conserver la paternité puis sortir en héros du dossier pour dire qu'il l'a fait arriver.
C'est mon équipe, c'est mon dossier.
Bien là, tu sais, tout le monde est en même de constater que il a raté son coup, parce que la concession qui a été annoncée hier est à Laval et pas à Québec. Donc, il n'est pas arrivé seul. Donc, Québec d'abord revient avec sa proposition. Nous, on veut mettre en place un comité transpartisan. Autant les partis que les acteurs. Je suis en communication avec tellement de dirigeants, de directeurs des clubs de soccer à Québec. Tout le monde la veut, l'équipe, puis personne se concerte pour le faire arriver.
Mais en même temps, tu sais, il n'y a personne à la ville puis dans les acteurs qui peut arriver à ça non plus si la Ligue voulait commencer par je dis Montréal, c'est Laval. T'sais, on peut bien tout vouloir le retour des Nordiques. Ça arrivera pas parce qu'on le veut. Est-ce qu'on a vraiment un pouvoir du côté du municipal pour faire arriver cette équipe-là?
Moi, je vous confirme que la Ligue veut une équipe à Québec. Ça nous a été dit, là. Et nous étions encore jusqu'à tout récemment en communication avec la Ligue sur « on veut un club à Québec ». Et ils nous ont dit, à Québec, ben un, il nous faut un stade. Donc, il faut un engagement en ce sens-là.
Ça pourrait pas être au stade TELUS?
Ça peut l'être de façon temporaire. On pourrait avoir une concession qui arrive demain. La Ligue est prête à faire jouer le club au stade TELUS pendant un certain temps, mais de façon... À long terme, ça fonctionnera
pas. Pourquoi?
Il nous faut un stade. C'est une exigence de la Ligue. C'est une
d'avoir
exigence
son
de la Ligue.
Stade à elle, genre?
Ben, pas à elle. Ce qu'elle veut, c'est un stade qui appartient à la communauté. Ça fait vraiment okay. partie des valeurs de la Première Ligue canadienne, à savoir, on veut un stade où on va venir jouer, mais où ça va aussi servir aux clubs locaux. On veut qu'ils appartiennent à la communauté.
Ça va coûter combien, ce stade-là?
Ben nous, on l'a estimé... Écoutez, attendez-moi.
Parce que vous l'avez proposé il y a quelques mois. C'était en mai que vous parliez de la construction d'un stade dans le secteur du Parc Victoria.
Oui. En fait, nous, on a parlé d'un projet qu'on nomme la Cité des sports.
Oui.
Donc, on veut un stade de soccer professionnel, mais pas que. Le stade, on l'a budgété à ce stade-ci à 70 millions de dollars. Mais je vais reprendre les propos de mon chef, Claude Villeneuve, qui le martèle. Il faut impliquer les autres paliers de gouvernement et le privé dans ce genre de projet-là. Okay. J'ai déjà entendu sur vos ondes William Trudel qui se faisait questionner à savoir on a évoqué que ça pourrait être un stade de soccer Trudel et lui de dire écoutez, je pourrais avoir l'intérêt, mais on m'en a pas parlé. Bien, ça, c'est un problème pour moi dans le dossier.
Il aurait fallu que Bruno Marchand déjà se soit adressé à un gars comme M. Trudel.
Bien, Trudel et autres, on est en retard dans le dossier. Puis si M. Marchand, ce qu'il veut faire, c'est de conserver le dossier pour lui, bien, tant mieux. Mais Québec d'abord, on ne veut pas le travailler comme ça.
Est-ce que Bruno Marchand a parlé d'un nouveau stade ou...
Il a parlé d'un nouveau stade, ce qu'on a pu lire... On veut avoir accès à cette information-là aussi là, pour pouvoir mettre la main à la pâte. Ce qu'on a vu dans les articles, c'est qu'il y avait 5 sites potentiels qui étaient envisagés, mais il n'y a rien qui a été dévoilé. On n'est pas au courant des informations par rapport à ça.
Un questionnement qu'on avait ce matin avec Marceau puis avec Jeff, c'est le stationnement. Parce que là, déjà dans ce coin-là du Parc Victoria, il y a le stade Canac. Puis on a vu les problématiques qu'il y a eu avec les capitales dans les dernières semaines. Du monde qui n'en a pas de parking. Là, fait que tu essaies de t'arranger puis finalement, tu sors de là avec des tickets. On va faire comment pour amener un nouveau stade puis amener du monde dans ce coin-là encore plus avec cette problématique-là de stationnement?
Bien, nous, en fait, dans notre vision de la Cité des sports, c'est vraiment de revoir notre entrée de ville. Donc, on a le stade de soccer professionnel, mais on a aussi un stationnement étagé qu'on vient installer et qu'on a budgété.
Est-ce qu'il est compris dans le...
Il est pas... En fait, je peux vous partager le montage financier. Là. On évalue notre Cité des sports à 110 millions de dollars. On a un 70 millions pour le stade de soccer et on a évalué le stationnement étagé à 20 millions.
Okay.
On se base sur les chiffres du stationnement qui est actuellement en réfection à l'Aquarium de Québec. Donc, on a un stationnement étagé qui permet, oui, de prendre des voitures du débit pour les capitales. Il y a la patinoire couverte qui est récemment installée là, le stade de soccer. Mais en dehors des heures où il y a des matchs, il y a une problématique dans ce secteur-là pour les résidents lors des opérations de déneigement. Donc, on y voit aussi une solution pour les résidents qui habitent aux abords de cette cité des sports-là pour leur offrir une solution.
Y croyez-vous à l'arrivée d'une équipe de soccer à Québec à court terme ou avec la construction du stade, là, vous me dites que du côté du stade TELUS, il y aurait moyen de faire de façon temporaire. Dans vos plans, le vrai stade serait prêt quand? Puis à quel moment on serait vraiment prêt à accueillir une équipe sans devoir passer par le stade TELUS?
Bien, écoutez, il y a aussi la déconstruction, la décontamination de la centrale de police qui est actuellement là. C'est pas demain. Si je reviens à votre question, est-ce que j'y crois? Certainement. Je crois pas à la venue d'une équipe de soccer professionnel à Québec. Je crois à la venue de deux équipes de soccer professionnel à Québec. Une de la Première Ligue canadienne, parce que c'est de ce dont on parle ce matin, mais une de la Super Ligue du Nord. C'est la ligue dans laquelle évoluent les Roses de Montréal, qui ont annoncé encore récemment qu'ils étaient à la recherche d'investisseurs pour développer et implanter une nouvelle concession. Je crois que nous aurons une équipe professionnelle de soccer masculine et une équipe de soccer professionnelle féminine.
Est-ce qu'on a le bassin de population pour ça, pour deux équipes?
Assurément. Assurément. Le bassin masculin, il est présent. Féminin, je ne veux pas dire encore plus, mais il est là, il répond présent. Je coach pour le club de soccer Phoenix depuis maintenant 6 ans. Et la qualité de joueuses puis l'intérêt des joueuses qu'on a à Québec... elle est là et les jeunes filles que je compte, elles ont 10 ans. Donc, elles ne sont pas rendues au niveau professionnel, mais ne serait-ce que d'évoquer la possibilité qu'elles puissent rêver de jouer professionnelles dans leur ville,
ouais.
à leur sport. Écoute, c'est des étoiles dans leurs yeux, là. Donc, oui, j'y crois. Puis je pense qu'il faut le rêver pour Québec, même si c'est pas demain matin que ça arrive.
Est-ce que vous vous situez un peu à la même place pour ce qui est de la ligue professionnelle de hockey féminin? Est-ce que je sais que Jackie Smith, entre autres, là, du côté de Transition Québec, en parle beaucoup de ce dossier-là, puis voudrait une équipe à Québec. Est-ce que Québec d'abord se positionne un peu de la même façon?
On est au même endroit. C'est ma collègue, en fait, Anne Corriveau. Qui est sortante et qui ne se représente plus, là, mais on va assurément le prendre là, comme legs, notamment de sa part. Mais elle l'a proposé, ça fait déjà belle lurette. On le souhaite aussi. On le souhaite aussi. Il y a une place à Québec pour le sport féminin. Et je pense que ces démarches-là peuvent se faire de façon concurrente. Là. Elles n'ont pas besoin d'être une après l'autre.
On demande par texto, en passant, n'hésitez jamais là, si y a quoi que ce soit au 418-971-1021 si vous avez des questions. Vincent qui demande, est-ce que vous êtes conscient que le coût de construction va probablement être deux fois plus élevé que ce qui a été prévu et budgété? Est-ce qu'on a planifié un peu qu'il y aurait des dépassements de coûts comme à peu près malheureusement dans tous les dossiers?
Bien là, écoutez, le montage financier qu'on a prévu, oui, est en date de ce jour, mais il y a des je cherche le mot. J'ai juste buffer, je cherche en français.
Oui, je comprends ce que
un
vous
coussin.
Voulez dire.
Un coussin.
On va comprendre avec coussin.
Voilà, un coussin, pardon pour l'anglicisme, parce qu'on le sait que la construction ne se fera pas demain. Donc, il y a une marge. Il y a une marge, mais évidemment, on n'est pas à l'abri là, de certains dépassements de coûts. Mais je le répète, c'est un projet dans lequel Québec d'abord veut impliquer le privé, mais non pas seulement. On veut aussi impliquer les autres paliers de gouvernement. Et on pense qu'au final, la ville devrait s'en sortir dans notre plan décennal d'investissement. Donc, sur 10 ans, avec un coût de 40 millions pour le projet global de la Cité des sports. Là. Donc, on parle du stade de soccer, on parle du stationnement, de la déconstruction et de la décontamination. De la centrale de police, de la vieille centrale de police, et aussi de la réfection des terrains de tennis et de l'ajout de surface de pickleball dans cette cité des sports-là.
Parlons d'asphaltage, oui. Un sujet tellement sexy. Monsieur, madame, tout le monde écoute présentement puis se dit « Yes, on jase d'asphaltage ». Mais mine de rien, c'est une promesse importante qui a été lancée par le maire sortant, Bruno Marchand, hier, qui promet 400 km d'asphaltage sur 4 ans, dont 300 km en secteur périphérique. Du côté de Québec d'abord, on l'accuse d'opportunisme électoral. Mais reste qu'en bout de ligne, quand on regarde cette mesure-là objectivement, est-ce que c'est une bonne mesure?
Bien, en fait, j'ai envie de vous dire qu'il était temps qu'il arrive dans le game. Nous, en mars dernier, on a proposé, on a pris l'engagement de procéder à une opération massive d'asphaltage qui permettrait rapidement de procéder à la réfection de minimalement 25 % des artères de la ville de Québec. En mars dernier. Et au moment où on le fait, le maire, fidèle à ses habitudes, s'est moqué parce qu'il disait qu'il n'y avait pas de problématique sur nos routes. Puis que tout allait bien. Hein? C'est souvent son discours. Là, on arrive au moment de la campagne électorale. Il se positionne dans les banlieues pour lesquelles il n'a pas agi dans les 4 dernières années. Je suis obligée de vous dire que, oui, c'est un bel engagement. Parce qu'on l'a pris, ça fait déjà belle lurette. Mais lorsque c'est Marchand qui le prend, je suis obligée de dire que c'est crédibilité zéro.
C'est quoi les coûts de ce type d'engagement-là? Parce que pour ce qui est de Bruno Marchand, là, ce qu'on nous a dit, c'est qu'on allait présenter les coûts dans le cadre financier. On peut évaluer ça à comment? Puis votre mesure, la même chose?
Bien, en fait, ce matin, je n'ai pas les coûts détaillés parce que nous, non seulement on s'engage à cette opération massive d'asphaltage 2.0, mais on s'est aussi engagé à réduire de 25 % la durée des travaux sur les artères névralgiques parce qu'on le sait, ça augmente les problématiques de congestion. Dans les prochains jours, on fait plusieurs sorties là, sur nos différents engagements et dans les prochains jours, on fera celle sur la mobilité. Donc, vous serez à même là, de pouvoir avoir les chiffres, en fait, ces engagements-là chiffrés. Là.
Mais justement, les chiffres, là, le cadre financier, c'est tout le temps une question des citoyens. Pourquoi on attend autant avant de partager les chiffres puis le cadre financier? Il me semble que si tout le monde présentait ça au début de la campagne, ben là, on serait tous un peu plus fixés à savoir, OK, vers où on s'enligne. Pourquoi c'est long de même? Est-ce qu'on va l'avoir bientôt, votre cadre financier à Québec d'abord?
Bien, nous, en fait, il est monté, là. T'sais, nous, on l'a et ça fait déjà plusieurs sorties qu'on fait. On a choisi de le faire par thématique. Celle qu'on a faite à ce jour, notamment, je prends celle des centres communautaires, dont la réflexion des centres communautaires sur le territoire de la Ville de Québec, on a chiffré ces engagements-là. On va aussi le faire lorsqu'on va sortir pour la mobilité, comme je viens de vous dire. Et si je ne m'abuse, on est le seul parti à avoir avancé autant de chiffres à ce jour. Donc oui, c'est un choix de le faire par thématique. Vous conviendrez que ça peut devenir beaucoup aussi là, si on garoche des chiffres pour l'ensemble de notre plateforme électorale. On le fait par thème, c'est un choix, puis on va continuer d'associer nos engagements aux chiffres qui leur sont liés.
88-971-1021, une question qui est entrée. Je veux bien l'asphaltage, mais allez-vous oublier ce qu'il y a en dessous de l'asphaltage, tuyauterie, les fils, tout ça, parce qu'asphalter sans remettre le système souterrain, ben c'est brûler de l'argent, puis on est en maudit du brûlage d'argent.
Oui, bien, en fait, merci pour la question. J'ai pas le nom du citoyen ou de la citoyenne. Merci, Kim, pour la question. Ça, c'est une problématique qu'on a déplorée, notamment parce qu'il arrive un manque de coordination entre les différentes équipes ou même entre un promoteur privé et la ville, où malheureusement, on l'a vu trop souvent dans les 4 dernières années, on fait l'asphaltage sur une artère, puis pas longtemps après, il faut la péter, pardonnez-moi l'expression encore une fois, pour aller refaire en dessous parce qu'il y a une problématique qu'on n'avait pas anticipée. Ça fait aussi partie des engagements qu'on a pris, là, on a commencé à en prendre avant que la campagne électorale soit lancée, sur une meilleure coordination des travaux. Parce que c'est inadmissible qu'on asphalte sans coordonner puis valider s'il y a des choses à refaire en dessous, parce que là, c'est payé en double. Et Kim a raison, c'est les citoyens qui payent en double.
Comment on s'explique que ça arrive? Tu sais, je me souviens, c'est dans Le Soleil, il y a quelques semaines, qu'on nous parlait d'un exemple précis où je pense que c'était un trottoir qui avait été refait 3-4 fois en quelques mois. Comment on peut s'expliquer que ça arrive?
Je me l'explique mal.
Là, on dit parce que là, il y avait eu un retard pour un projet privé. Fait que là, si c'était pas de ce retard-là, ça aurait eu plus de bon sens. Mais même en enlevant cet élément-là, il reste que ça aurait été 3-4 fois en un petit peu plus de mois. Là, mais...
Bien, on parle des sommes puis des fonds qui sont liés à des problématiques comme ça. Puis je vous le donne, là, il y a vraiment un aspect financier qui est important. Là, on prend un trottoir, mais si on le transpose sur une route pour laquelle on est obligé de la défaire puis la refaire, on a un problème de congestion à Québec. Donc, les impacts sont financiers, oui, mais il y a aussi un impact sur la congestion puis sur la qualité de vie des citoyens parce qu'ils sont pris dans le trafic. Dans notre plan pour réduire les travaux de 25 % en termes de durée, bien, un des éléments principaux, c'est la coordination, la communication entre les différents acteurs qui doivent se parler. C'est ça qui s'est passé. Il y a 2 personnes, 3 personnes qui ne se sont pas parlé dans le dossier, puis ça fait en sorte qu'on est pris pour refaire un trottoir 3 fois. Ça ne devrait pas arriver dans n'importe où, mais d'autant plus dans une ville comme Québec.
En terminant, je suis curieux de vous entendre, Véronique Dallaire, sur la rencontre d'hier soir du côté de Leadership Québec. C'est Nouveau qui nous a rapporté l'information à l'effet que, là, on s'était comme rendu compte chez Leadership Québec que ça marchait pas comme début de campagne. Puis on voulait faire, on appelait ça un recadrage. Qu'est-ce que ça dit sur le parti de Sam Ahmad?
Je pense qu'il était temps qu'ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas, là. C'était peut-être les seuls, en date du 24 septembre, qui ne s'étaient pas rendus compte que ça ne fonctionnait pas, du tout. À suivre là, pour le recadrage. Nous, chez Québec d'abord, ça va très bien.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Avez-vous hâte de voir des sondages, des chiffres? Parce que là, les derniers qu'on avait, c'était au mois de juin, si ma mémoire est bonne. Puis ça allait pas super bien. Claude Villeneuve, qui était même derrière Jackie Smith. Est-ce qu'on a l'impression qu'au prochain sondage, ça va aller mieux?
Les sondages, c'est toujours relatif, là. Moi, je pense qu'au prochain, ça va aller mieux, mais je pense que l'autre d'après, ça va être encore mieux. La réponse sur le terrain, elle est excellente. On est tous sur le terrain, sur les appels en porte-à-porte. Puis moi, je suis obligée de vous dire que la principale réponse que je me fais offrir quand je cogne une porte, c'est « Êtes-vous pour Marchand? » Puis là, je dis non. Il dit « Ah, OK, je vous écoute. » Donc, il y a vraiment un ras-le-bol du maire actuel. Et la ligne qui suit ensuite, c'est « Ah, mais là, M. Ahmad, on n'est pas sûr. » Je dis « Non, je suis pour ni un ni l'autre. Je suis pour Claude Villeneuve, la seule vraie alternative pour la mairie au 2 novembre 2025.
Mais reste qu'avec le projet de tramway, ceux qui sont pour M. Hamad, c'est plus vers Stéphane Lachance qui risque d'aller s'ils sont... Est-ce qu'on, quand on regarde les chiffres, mathématiquement, il y en a beaucoup qui pensent que Bruno Marchand se dirige vers une réélection assez facile parce qu'on voit qu'un 38%, ça c'est Le Soleil qui le disait la semaine passée, 38% qui veulent un retour de Bruno Marchand à mairie. Ça, ce que ça veut dire, mettons qu'on y va avec la grosse logique, c'est que 38% vont voter pour Bruno Marchand. Claude Villeneuve, qui part à en bas de 10%, va être tough, là.
Nous, on y croit. Nous, on y croit. Plus on se fait connaître sur le terrain, plus les gens vont voter pour Claude. Et je vous dirais qu'aux portes, là, on ne me parle pas du tramway. On ne me parle pas du troisième lien. Les gens sont tannés. Ils ont envie qu'on se ramène à leurs préoccupations quotidiennes. Puis c'est notre engagement d'être proche des citoyens. Et ça, ça leur parle.
Véronique Dallaire, candidate de Québec d'abord dans les Saules, les Méandres. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Au retour, Audrey Pinchot s'en vient pour l'Open Mic. Encore une belle heure à passer ensemble dans le Point de Max. C'est 13 degrés à Québec présentement. On attend 18 aujourd'hui. Demain, c'est 21 degrés avec 40 % de possibilité d'averse. Samedi, super belle journée avec 19 degrés. Dimanche, 23 degrés. Alternance soleil-nuage. Après ça, lundi, mardi, mercredi, c'est du gros soleil. Sur les routes, ça semble encore assez problématique pour l'accès aux pompiers à la porte en direction nord. Ça n'a pas été un matin facile. Et question de commencer à s'intéresser au match de ce soir, match préparatoire entre le Canadien et les Maple Leafs de Toronto. On a l'alignement qui est sorti dans les dernières minutes pour l'ECH. Cole Caulfield, Nick Suzuki et Juraj Slafkovský seront de l'alignement. En fait, le top 6 va pas mal ressembler au top 6 qu'on va avoir pour entamer la saison régulière. Parce que le deuxième trio sera composé de Patrick Laine, Kirby Dach et Ivan Demidov. Le troisième trio, Joshua Roy, Vincent Roher et Méchard. Davidson, Jack Eye et Tox sur le quatrième trio. Fait que Marceau va bien être content d'avoir son petit Florian Jack Eye dans l'alignement. La défensive, Mathison Dobson, Caden Goulet, David Reinbacher et O'Rourke Clorman. Devant le filet, Samuel Montembeau et Jacob Fowler. Donc, c'est l'alignement qui affrontera les Maple Leafs de Toronto ce soir. Audrey Pinchot, salut!
Hey, comment ça va?
Ça va bien. On a eu une belle soirée hier encore, hein?
Oui! On est allé à une autre activité des Amis pas d'amis.
Moi, ça fait deux de suite parce que là, on avait une mardi soir. Puis on a tellement aimé ça qu'on l'a refait hier. Un genre de ballon canadien de kickball, mais modifié. C'est mon idée, une de mes meilleures idées à vie en passant, là. Au lieu de jouer avec un ballon de soccer, on joue avec un ballon de football parce que ça se passe vraiment mieux. Puis... c'est vraiment cool. Fait que d'après moi, c'est mon nouveau sport préféré.
Le pire, c'est que ce que je me rends compte que j'aime le plus, c'est le fait de juste aller prendre l'air, jouer, bouger. Hier, je suis restée à peu près une heure, là.
Parce que t'étais trop fâchée de perdre à la fin. Je t'ai rarement vu aussi mauvaise perdante.
Hey, puis le pire, c'est-tu quoi? Ça me fait rire parce que j'ai pas ça. Je pensais pas non. avoir ça, je vais dire.
Ah, tu l'as.
En dedans de moi.
Tu l'as.
Puis hier...
Puis oui, j'aimais ça le chercher.
C'est ça le problème. Le problème, il est là. Le problème, c'est pas que je suis mauvaise perdante, c'est que j'avais trois amis de l'autre bord qui se craquaient à me piquer, puis à, tu sais,
ouais,
à chercher à marre.
Ouais,
piquer à
puis plus ça pogne, plus on aime ça.
Ben
là.
Oui, c'est sûr. Fait que non, c'était vraiment une super belle soirée. C'est drôle parce que le sujet qu'on aborde aujourd'hui, étroitement, est un peu venu de l'idée des amis pas d'amis parce que t'as croisé cette personne-là pour la première fois cette semaine.
Mardi, ouais.
Mardi, dans une activité des amis pas d'amis. Pour les gens qui nous écoutent et sont comme, c'est quoi cette affaire-là des amis pas d'amis? Là? On a parlé de ça il y a une couple de semaines. C'est un groupe qui s'est créé après qu'une personne sur les réseaux sociaux ait comme fait un appel à tous sur le fait que, hey, ma génération, on n'est pas vraiment connectés humainement. On est ces réseaux sociaux, puis on n'a pas vraiment de gang d'amis. Puis les gens se sont mis à lui suggérer, bien, pourquoi tu crées pas un groupe? Pourquoi on n'essaie pas justement d'avoir une façon de se rassembler, de se retrouver, de reconnecter? Puis est né le groupe Facebook Les Amis, pas d'amis.
Puis depuis ce temps-là, il y a des événements, des activités chaque mercredi. Là, exceptionnellement, on avait mardi aussi. Puis j'aime tellement ça, justement, juste me retrouver pour faire du sport. Parce que dans ces amis, pas d'amis-là, ben j'ai aussi des amis que je connaissais avant. Mais on dirait que c'est cool parce que c'est juste devenu une excuse pour voir ces amis-là aussi. Ouais. Fait que
t'amènes du nouveau monde.
Il y en a qui vont là en gang d'amis, de 2, 3, 4 amis. Puis en bout de ligne, ben ensemble, on peut faire du sport. Fait que c'est cool.
T'as une activité par semaine. Il y a du monde qui s'écrive sur le groupe Facebook. C'est sympathique, pour vrai. C'est vraiment sympathique. J'étais de ceux qui pensaient que c'était peut-être un peu... Je vais utiliser le mot « loser ». Je pense qu'on a vraiment des... Non, mais c'est parce qu'on a des préjugés par rapport à ça. On a vraiment des préjugés. Et depuis que je suis allée une fois, j'y retourne. Je trouve ça le fun.
L'essayer, c'est l'adopter.
Ben totalement. C'est parce que tu te dis au début, voyons, c'est qui le monde qui vont là. T'sais, on dirait que tu te dis, j'ai même pas le temps de voir mon propre entourage. Pourquoi j'irais voir du monde que je connais
pas? Finalement, c'est juste du monde bien cool, bien le fun, qui a le goût de s'amuser puis de bouger.
Oui, fait que laissons tomber nos préjugés. Aujourd'hui, on parle du syndrome de la Tourette. Je vais aller direct au but. Ça fait des mois et des mois que j'ai ça en tête, puis je me dis, crime, ça nous prend la bonne personne qui est à l'aise avec son syndrome, qui a le goût d'en parler, qui a le goût de démystifier puis de faire tomber peut-être des mythes. Parce que j'ai l'impression qu'on a une vision du syndrome de la Tourette, ce qu'on voit dans les films, là, je veux dire. Puis souvent, c'est les tics qui sont très verbaux. Mais on comprend pas exactement. Y a mille... Moi, comment les mots sont choisis? Pourquoi, mettons, c'est vulgaire la majorité du temps?
C'est souvent les mêmes mots qui vont revenir.
Oui, exactement. Si vous avez des questions, 88-971-1021. Twitch aussi, twitch.tv, BLVD, barre en dessous, FM. On reçoit aujourd'hui Véronique Quentin, une femme de 23 ans qui a été diagnostiquée avec le syndrome de la Tourette de façon officielle il y a 2 ans. Et pas juste ça en passant, elle est étudiante en éducation spécialisée, intervenante au projet Lune. Il y a tout ça aussi que je vais aborder, le fait que ces gens-là ne sont pas que leur syndrome. Mm-hmm. Véronique, bon matin.
Bon matin.
Je suis vraiment contente que prennes la peine de venir t'asseoir avec nous. On va aborder tous tes tics, tout ce qui peut sortir de ta bouche dans la prochaine demi-heure. D'abord, je tiens à le mentionner parce que je suis très ricaneuse de base. On a déjà jasé ensemble. Possible que des fois, je craque ou je fige ou je ris parce que c'est pas des choses avec lesquelles on est habitué de concevoir. Je vais dire, moi, j'ai personne dans mon entourage qui a le syndrome de la Tourette. Okay. Fait que c'est tout nouveau pour moi ce matin. Puis je trouve ça hot qu'on prenne le temps de chasser ensemble.
Justement, c'est-tu pour toi ça qui est le mieux, que les gens autour soient au courant puis que ce soit mis sur la table d'avance de dire, hey, ça se peut qu'on trouve ça drôle puis qu'on en...
Oui, bien, OK, pour moi, là... Dans le fond, c'est que moi, j'ai comme un peu pas le choix de le garrocher que, hey, j'ai la Tourette, parce que j'ai tout le temps ta gueule. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps l'air d'être en train d'insulter le monde. Fait que je leur dis d'avance, puis je suis comme, c'est correct, on en rit. Puis j'aime mieux que les gens en rient parce que, ben moi, ça me rend moins mal à l'aise parce que j'ai quand même des petites bêtises.
Oui, parce que c'est ça, c'est plus vulgaire quand même. Avant qu'on aille là, je veux juste qu'on établisse ce que c'est. Parce que justement, on a mille et une idées de ce qu'est le syndrome de la Tourette. Peux-tu nous expliquer comment ça se traduit au quotidien?
OK. Le syndrome de la Tourette, c'est des tics sonores et des tics moteurs. Il y a des tics complexes, il y a des tics simples. Un tic simple, disons, sonore, ça peut être de siffler. Puis un tic complexe sonore, ça va être de dire « ta mère en short ». C'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose que je dis
verbal,
souvent.
Oui. Ouais.
Quelque chose de plus long, c'est pas un petit son soudain. C'est quelque chose qui prend plus de temps. Et de muscle aussi, de... Disons, si je tapais sur la table comme ça, ça serait un tic simple. Puis si je me levais debout puis je sautais sur place, ça serait un tic moteur complexe.
Je te suis.
Ça peut arriver que tu te lèves puis tu sautes.
Bon, c'est pas arrivé souvent, mais c'est déjà arrivé. Okay. C'est déjà arrivé.
Puis j'imagine que quelqu'un qui a le syndrome de la Tourette, il n'y a personne qui a le même tic nécessairement non plus, là.
Qu'est-ce qui est quand même drôle, c'est que quand tu mets deux personnes avec le syndrome de la Tourette ensemble, ils se pognent leur tic entre eux.
Oui. Ça s'influence, ça arrive.
Oui. Puis. Moi aussi, je trouvais ça bizarre au début, mais en fait, j'ai réalisé comme... En fait, moi, des fois, je répète des affaires que j'entends. Je reprends des trucs que les gens disent, puis ça va être un tic. Fait que c'est juste que si t'es avec quelqu'un qui dit tout le temps « bonjour », tu sais, son tic, c'est dire « bonjour » 15 fois dans la même phrase, ben je vais sûrement répéter le « bonjour » parce que je l'ai entendu beaucoup.
Je te suis.
Fait que c'est ça, on peut se pogner nos tics entre nous si on est ensemble.
Puis est-ce que tu le sens venir? Est-ce que tu le vois venir? Ou est-ce que ça se contrôle relativement? Tu sais, là, on se parle. Là.
Oui. OK, je t'explique ça. Dans le fond, la manière simple, là, ça serait de dire, c'est comme quand t'éternues, tu vas sentir quelque chose avant, puis à un moment donné, t'éternues, puis le feeling, il passe.
Oui.
Fait que ça, c'est un peu comme ça, un tic. Pour moi, veux-tu savoir pour moi personnellement?
Oui, vraiment, absolument.
Pour moi personnellement, moi, je décris ça comme si, dans ma tête, c'était les nouvelles. Puis tu sais, comme il y a tout le temps une bande qui passe en bas avec toute plein d'infos qui défilent.
Oui, absolument.
Là. C'est comme si, y a tout ça, c'est mes pensées. Puis là, à un moment donné, dans la bande qui défile, je vois ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Puis c'est comme, à un moment donné, tout dans ma tête arrête, puis je vois juste ta gueule dans ma tête, puis je suis plus capable vraiment de suivre ce qui se passe autour. Puis si je veux que la pulsion s'enlève,
t'as pas le choix.
Je le dis, puis ça s'enlève, puis on continue, puis après ça recommence à un moment donné.
Je trouve ça super intéressant. Fait que c'est pas nécessairement toutes les personnes qui ont le syndrome de la Tourette qui ont des tics verbaux. Des fois, tu peux avoir juste les moteurs, c'est ça?
En fait, si je me trompe pas, pour que ça soit considéré comme le syndrome de Gilles Latourette, il faut un certain nombre de tics verbaux et un certain nombre de tics moteurs. Ça, je pourrais pas te le dire parce que je suis pas neuropsychologue, là. je me souviens pas. Mais il faut un certain nombre de tics. Il faut que ça reste pendant un an pour être diagnostiqué avec le syndrome de Latourette.
Toi, c'est ce qui est arrivé. Dans le fond, tu as eu le diagnostic il y a 2 ans.
Bien, moi, là, la théorie, là, c'est que j'aurais toujours vécu avec des tics, mais des plus petits tics. Sûrement des tics simples. Parce que maintenant, il y a des affaires qu'on regarde que je faisais avant, comme des pulsions, comme sentir mon crayon. Je sentais mon crayon de manière compulsive à l'école. Ma prof me l'a confisqué. mais ça, sentir quelque chose, avoir une obsession de devoir sentir quelque chose, c'est un tic. Des trucs aussi que je faisais, des fois, je faisais des petits sons, mais pas souvent, tu sais. Fait que c'est rien
qui... Ça passait un peu dans le beurre.
Oui. C'est rien qui criait Tourette. Je n'étais pas en train de dire ta gueule avant il y a une couple d'années.
Puis comment t'en es venue à aller justement chercher un diagnostic?
Dans le fond, j'ai une médecin qui me suit. Puis c'est juste qu'à un moment donné, c'est ça. J'ai commencé à avoir des tics, puis on se disait c'est peut-être ça, c'est peut-être d'autres affaires. Puis on a comme éliminé toutes les options. Puis à un moment donné, on était rendu à l'option Tourette. Puis l'option Tourette faisait du sens parce que le syndrome de la Tourette, oui, il y a les tics, mais il y a un gros aspect comportemental. Il y a beaucoup de symptômes. Tu sais, par exemple, les sautes d'humeur, l'hyperactivité, l'impulsivité, des épisodes explosifs, des obsessions, des difficultés de modulation sensorielle. Je ne sais pas si j'avais dit l'opposition.
Non, mais je savais pas.
La rigidité, des troubles du sommeil, des difficultés des difficultés d'apprentissage et d'adaptation, puis un manque d'inhibition. Ça, c'est toutes des choses qui viennent avec la Tourette.
On connaît tellement...
C'est fou, je me rends compte que moi, dans ma tête, c'était juste quand tu te mettais à crier quelque chose en plein milieu d'une phrase. Là.
Même affaire.
Puis, en fait, ce que tu peux remarquer, c'est que moi, ça coupe même pas le milieu de ma phrase. Ça, c'est moi, là. T'sais, on est en train d'avoir une conversation en ce moment.
Ça coule. Bien.
Mais c'est quand, disons que tu vas parler pendant 30 secondes, là, je vais commencer à avoir des tics, là. Quand ça va être une pause, là,
souvent, c'est plus silence.
Comme ça. Oui.
C'est drôle parce que je voulais te le dire, en plus, je m'attendais à pire, mais t'as tellement dans une perception, t'as tellement que c'est tout le temps. T'sais, on dirait que dans les films, c'est exagéré, hein? Mais après chaque fin de phrase ou en plein milieu de tes phrases, fait que...
En fait, là, moi, ce que je dis souvent, puis ça reste, c'est mon avis, c'est pas un avis d'expert, c'est que, tu sais, les TikTok, les vidéos des personnes qui se filment en train de faire de la Tourette en faisant de la cuisine, bien, eux, ils vont se filmer pendant 40 minutes, puis après ça, ils vont te faire une vidéo de 2-3 minutes de toutes les tics qu'ils ont eues. Puis ça a l'air plus intense que ce l'est. Reste qu'il y a des gens qui ont des niveaux de sévérité, de tics très intenses ou que c'est extrêmement handicapant pour eux, puis... C'est ça, que c'est presque constant, mais c'est pas le cas pour tout le monde.
Mais c'est bon ce que tu dis, par exemple, parce qu'on a cette image-là, puis c'est vrai que peut-être que ça peut nuire au final à l'image du syndrome.
Mais j'aimerais ça dire quelque chose aussi en lien avec ça, l'image du syndrome. Souvent, on pense tout le temps que c'est des blasphèmes, on pense tout le temps que c'est du monde qui sacre, qui dit des insultes, mais c'est vraiment, en fait, c'est à peu près 10% des personnes qui ont la Tourette qui font de la coprolalie, qu'on appelle, dire des choses obscènes. C'est juste que quand je te disais, il y a des tics simples. T'sais, un tic simple, ça peut être de siffler. Fait que quelqu'un qui fait juste siffler dans la rue, là, tu diras pas qu'il y a la Tourette. Ouais. Fait que c'est ça. Il y a juste à peu près 10% des gens avec la Tourette qui font la coprolalie. C'est pas vraiment pas la majorité des personnes qui ont la Tourette. C'est ça que tu remarques.
Est-ce que toi, les mots, les groupes de mots que tu lances, ça a toujours été les mêmes? Tantôt, on parlait du tailleul.
Comment ça se choisit, ça?
OK. Moi, je pense que plus le monde réagisse autour dans les débuts des tics, là, parce que des fois, je dis des trucs une fois puis je le dis plus jamais. Là. Okay. Des fois, ça a rapport avec juste ce que je pense. Mais je pense que quand les gens autour de moi vont toujours réagir en riant, ce qui est correct parce que moi, je l'accepte, ça va peut-être plus aider à instaurer le tic comme le...
Ah ouais, ça fige un peu dans le temps, certains... Parce que tu nous as dit que tu disais ta mère en short. Là. Moi,
ta
c'est
mère
sûr,
en short, oui.
Si c'est sûr que tu me lâches ça, je suis déstabilisée, là, tu sais.
Oui, ta mère en short, c'est quand même un peu plus particulier, en fait. C'est un tic qui vient d'un autre tic. C'était dans une émission, j'avais entendu quelqu'un dire « Your mom's a whore ». Puis ça l'a traduit dans ma tête, hein, ta mère en short. C'est pas exactement la bonne traduction.
Mais ça vient
mais
de là.
C'est wow. de là que ça vient. Parce que oui, je parle anglais depuis que j'ai comme 4 ans. Fait que mes tics, dépendamment, je suis entourée de qui, OK? Des fois, tu sais, je suis allée en Colombie-Britannique cet été. Puis quand j'étais en Colombie-Britannique, ben, je disais toutes mes tics en anglais.
Ah, c'est wow. vraiment spécial!
Ouais. Puis dès que je suis revenue à Québec, là, j'étais dans l'auto avec mon père, puis à un moment donné, je fais « ta gueule! » Puis là, j'étais comme « ah! » C'est revenu.
C'est le cerveau! Wow!
Parce qu'on dirait que dans ma tête, là, c'était les mêmes avis, là. Quelqu'un, tu vois, souvent, on va entendre que c'est des sacres ou, tu sais, on ouais. a cette impression-là. Mais moi, dans ma tête, celui qui disait « tabarnak », c'était tout le temps ça, là. Je pensais pas que ça pouvait changer.
Non, c'est ça, c'est une condition assez particulière. C'est vraiment une pulsion sur le moment qui est difficile à contrôler, qui peut être contrôlée, mais tu sais, tu pourrais pas me demander pendant une journée de 8 heures de pas avoir un tic. Je suis capable de vraiment me contrôler pendant peut-être une demi-heure, mais une demi-heure quand même beaucoup, ça, mais tu sais, je serais pas capable de bloquer ça toute une journée.
Mais je comprends totalement. Puis c'est particulier là, comme question, mais ça a-tu été soulageant de savoir que c'était ça que tu avais? Oui. Tu sais, des fois, on met des mots sur des symptômes que ouais. tu as au quotidien, puis on dirait que ça vient soulager de te dire, bon, mais maintenant, je sais c'est quoi au moins, tu sais, je peux oui. l'incarner un peu plus. Là.
Vraiment, vraiment. Parce que moi, j'ai toujours été la personne un peu particulière à l'école, puis juste. C'est juste ma personnalité, là, si je sors du moule. Mais c'était dur de saisir pourquoi, mais avec le syndrome de la Tourette et tous les symptômes qui viennent en plus des tics, ça fait du sens. C'est comme, ah, c'est pour ça que je suis de même.
Oui, tu comprends plus.
Tu parlais du contrôle, à quel point ça pouvait être difficile, mais possible pendant un certain temps. Puis, est-ce qu'il y a certains facteurs qui viennent influencer? Parce que moi, j'avais comme en tête que quand tu étais stressé, ben là, ça allait, ça sortait, puis ça a-tu rapport, le stress? Oui. Y a-tu des facteurs?
Le stress, la fatigue, ça influence beaucoup. Pour moi, y a d'autres facteurs aussi, mais c'est vraiment stress-fatigue. Des fois, quand je suis bien énervée aussi, j'ai des tics. Là, mettons, on dirait tous les extrêmes.
Mettons, là, d'être à la radio, puis de parler, ça te stressait-tu, puis tu disais-tu, OK, là, on t'a stressé, je serais pas capable de me contrôler, puis...
J'étais pas tant inquiète. Je savais qu'on aurait... pas de la misère à avoir une conversation parce que...
Écoute, parce que là, ça coule, ça va bien.
C'est
là.
Ça. En ayant une conversation, ça va. Je savais que entre, tu sais, quand vous allez parler, moi, je vais sûrement avoir des tics, mais j'étais pas trop inquiète. J'étais stressée parce qu'en ce moment, je suis en train de parler à la radio pour la première fois de ma vie, mais niveau tics, c'est un peu à ce que je m'attendais. Là, ta gueule! Ta gueule!
Est-ce que c'est génétique?
En fait, je veux juste être sûre d'utiliser les bons mots. Oui, ça peut être... Tu sais, si t'as un parent qui a la Tourette, t'as plus de chances d'avoir un enfant qui a la Tourette. C'est plus commun chez les gars que les filles.
Mais ça c'est... se développe pas, mettons. C'est un peu inné, là.
C'est inné, oui. Tu nais avec.
OK. Il y a plusieurs intensités. Tu nous en as parlé. Tout ce qui est vulgaire, tout ce qui est... Est-ce que ça crée un malaise chez les gens? Moi, j'en ai parlé avec toi avant qu'on ait en ouais. onde parce que je voulais être certaine, justement, que tu te sentes bien, que tu te sentes pas insultée ou qu'il n'y ait pas de malaise.
Cocaïne.
Mais est-ce que les gens démontrent un malaise au quotidien avec, justement, tes tics ou t'as le réflexe d'avertir?
Moi, j'ai tout le temps le réflexe d'avertir parce que, comme je vous disais, à cause que je dis « ta gueule », j'ai comme pas le choix de faire ça.
Ben,
parce
je prends
que
l'exemple,
sinon, j'ai l'air méchante.
Je prends ouais. l'exemple de mardi.
Oui.
La première fois qu'on s'est vus, on était quelques-uns puis on s'en allait jouer au sport avec les amis, pas d'amis. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui parlait puis là, il y a un ta gueule qui sort. Puis là, tout le monde s'en regarde
c'est
comme...
C'est surprenant.
Wow, ouais. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Puis là, tu l'as
le dit.
Puis à partir de là, ben tout le monde fait comme... Ben OK. Puis la soirée a été super, entre guillemets, normale après ça. Puis là, on savait que des fois, ben il y a des tailleuls qui sortaient. Puis oui. on savait c'était pourquoi. Puis fait que de l'aborder tout de suite, ça te, entre guillemets, sécurise un peu?
Oui, ça me sécurise. Oui, ça me... Oui. Mais tu sais, il y a aussi des... attendons, c'est correct. Laisse faire. Ta gueule! Excusez-moi.
Arrête, c'est correct, sois très à l'aise. Est-ce qu'il faut que tu l'expliques souvent?
Oui. C'est ça l'affaire, c'est que ça dépend tout le temps. Je suis où, tu sais, si j'ai un malaise avec ça. Comme là, dernièrement, je me suis fait offrir d'aller à l'église avec des personnes.
Oh.
Là, j'étais comme, non, 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 je vais pogner en feu, là.
C'est
je vais pogner en feu dans l'église.
Ouais, c'est ouais.
Tu sais, j'étais comme, non, pas aujourd'hui.
Elle dit « Je me mettrai pas dans les mauvaises conditions
ben c'est
non
ça.
Plus. »
À quel point tu dois te limiter? Je comprends. C'est drôle que tu mentionnes cet exemple-là précis de l'église parce que j'allais te poser exactement la question sur tu peux pas aller tant que ça à l'église, mettons. Y a-tu d'autres limitations que tu te mets comme ça d'endroits où tu dis je peux pas, tu sais, mettons, j'ai pas la bibliothèque?
Ça, c'est le genre d'affaire que je l'essaierais, mais j'hésiterais pas à partir si je vois que ça devient intense. Ouais. C'est que il y a des trucs que je suis capable de faire pour comme peut-être diminuer les tics verbaux, j'ai compense en tics moteurs.
OK, tu peux comme un peu
jouer. Oui, tu peux jouer avec un peu.
Ça prend
de la patience, ça prend de l'entraînement aussi pour le faire, mais tu peux un peu jouer avec. Fait que tu sais, des fois, quand j'ai l'urge de dire quelque chose que je veux pas dire dans ce moment-là, ben je vais commencer à bouger ma tête comme ça, puis...
Tu vas essayer de libérer autrement.
Libérer autrement, ouais. Fait que tu sais, ça, c'est une stratégie que je peux utiliser.
Je suis encore avec l'image de l'église en tête. Prions notre Seigneur. D'ailleurs! Non, mais c'est ça. Je comprends totalement que tu te mets pas dans ces situations-là. Toi, est-ce que tu as un malaise au quotidien? Tu n'arrêtes pas de parler de comment les gens réagissent, mais toi, est-ce que t'es bien avec ça?
Moi, je suis bien avec ça.
Ça te gêne pas?
Ça me gêne pas parce que je m'arrange pour aller dans des endroits où que c'est correct. Tu sais, genre, il y a des choses que je pourrais pas faire, comme travailler dans une garderie. Des choses comme ça. Mais je m'arrange pour être dans des milieux où que... Tu sais, je suis tout le temps ouverte d'emblée à propos de ça. Ouais. Comme ça, il n'y a pas de mésaventure.
T'es étudiante en ce moment en éducation spécialisée. C'est une drôle de question, mais est-ce que justement ton syndrome t'a un peu dirigé vers là, tu sais, de vouloir prendre soin des gens, d'être dans un... Ouais, hein?
Oui.
Puis la médication, c'est une drôle de question aussi. J'ai aucune idée s'il y a une médication qui aide le syndrome. Est-ce que c'est quelque chose que tu prends? Comment ça marche?
OK, ben ils donnent plusieurs sortes de médications, mais en gros, souvent, ça va être des antipsychotiques, des alpha-agonistes. Moi, je prends les deux, puis comme on peut voir, ça marche pas tant que ça.
Non, ça marche pas!
Mais tu sais, c'est qu'il y a pas de médicament magique qui va traiter le syndrome de la Tourette dans son entièreté. Il y a des médicaments qui vont aider avec l'impulsivité qui vient avec la Tourette. Il y a des médicaments qui vont aider avec les problèmes de sommeil qui viennent avec la Tourette, comme qu'il y a des médicaments qui vont venir aider avec les tics qui viennent avec la Tourette.
OK.
Mais c'est jamais...
Ça peut pas tout régler, là.
Non, ça peut pas tout régler.
Puis est-ce que c'est dû à ces erreurs? Est-ce qu'on va te proposer plusieurs types? Ah oui, OK. Fait que toi, en ce moment, mettons, ce que tu prends, on peut considérer que c'est ce qui altère le plus tes symptômes.
Je pense que c'est quelque chose que si je le prenais pas, mes symptômes seraient tellement pires.
Ah ouais, hein?
Je pense, tu sais, autant que je fais des blagues puis je dis que ça marche pas, là, je pense que si j'avais pas les médicaments que je prends, j'aurais plein de tics. J'aurais bien plus de tics que ça.
T'en aurais pas mal plus.
Au niveau de l'emploi, est-ce que ça vient te limiter pas mal, mettons, que t'as un job, j'imagine, tu sais, tu présentes ton CV, t'as pas le choix de mentionner?
Oui, je le dis parce que souvent, quand tu cherches un emploi ou un stage ou quelque chose, ils vont te prendre en entrevue. Puis je le dis à l'entrevue ou dans une lettre de présentation, je le mentionne toujours. Parce que je trouve que j'ai des forces dans mon domaine avec ma condition.
Comme?
Beaucoup d'empathie, puis c'est être capable de se mettre à la place de l'autre. Il y a aussi le fait que les personnes qui ont la Tourette sont extrêmement créatives. Ça, des fois, je suis capable d'être créative. Puis quand tu es dans une clientèle plus marginalisée, des fois, être créatif, ça aide beaucoup. Ça peut être la petite affaire qui fonctionne.
Ah, je trouve ça beau. T'as-tu déjà vécu de la discrimination par rapport à ça, justement, dans des emplois?
Oui, en fait, une fois, dans le temps que je travaillais dans un hôpital, tu sais comment, il y a comme un bureau là, pour le staff.
Oui, ben oui.
Mais nous, les préposés, on n'était pas assis dans le bureau, on s'assoyait ailleurs, puis c'était juste ça, là. Puis à un moment donné, il y avait quelqu'un, j'étais assis en dehors du bureau, mais proche, puis il y a quelqu'un qui se retournait quand j'avais des tics. Fait que là, j'ai dit « Non, c'est correct, je te parle pas, j'ai juste des tics. » Puis là, elle me dit « OK, ben tu peux aller t'asseoir là-bas ou là-bas pour pas qu'on pense que tu nous parles. »
Mais voyons donc.
Ben, je me suis levée puis je suis allée m'asseoir avec eux. Je me suis dit « Si elle me voit, si elle me voit drette devant moi, si elle me voit drette devant elle, elle va pas penser que j'y parle, elle aura pas à se retourner. »
C'est un bon thinking. J'ai envie, avant qu'on se laisse, Véronique, y a-tu des choses qu'on n'a pas abordées, tu penses, qui sont importantes pour les gens de savoir, ou peut-être un mythe que tu veux défaire, ou comme je te dis, on a tellement des perceptions par rapport au syndrome de la Tourette. Fait que j'ai comme envie de te laisser le micro. Si tu penses qu'on a fait le tour, c'est bien correct aussi. Écoute, moi, j'ai vraiment apprécié cette discussion-là.
Écoute, au cégep, je lance des crayons.
Pour vrai, OK? Ouais. T'as ce genre de tic-là aussi où tu lances des choses.
Oui, mais si je lancerais pas un ordinateur portable...
Là, on se comprend.
Mais
ça devient pas
souvent,
dangereux.
C'est souvent si je tiens quelque chose trop longtemps dans ma main puis j'oublie qu'elle est là, ben là, je le garoche.
Ce que je trouve beau là-dedans, c'est qu'on dirait que tu t'en viens à bien te connaître.
Ouais.
T'as pas le choix, probablement.
Pas le choix.
Puis tu connais-tu d'autres personnes qui ont le syndrome dans ta famille, dans tes amis, dans ton entourage?
Pas dans ma famille. Dans mon cas, c'était spontané. Dans mon entourage, oui, parce que grâce à l'Association québécoise du syndrome de la Tourette, on a un 7 à 9 pour adultes vivant avec la Tourette une fois par mois. Fait que, j'ai rencontré d'autres adultes avec la Tourette à travers ça. Ça, c'est
ça
le fun.
Ça doit être hot, ça.
Oui.
C'est quoi? Hey, là, tu m'ouvres une porte, par exemple. Là. Toi, t'as tes tics, t'as ta condition, mais dans les pires que t'as vus, ça ressemble à quoi?
Tu veux dire les pires personnes qui ont des gros symptômes?
Oui, les pires symptômes, les pires... parce que là, vous vous retrouvez tous ensemble. J'imagine qu'il y en a des vertes et des pommures.
On est allé déjeuner au restaurant une fois. Puis oui, on tiquait. Puis, mais c'était rien de trop démesuré. Puis j'ai pas... C'est dur à dire, j'ai pas vu...
Ça se contrôle relativement bien.
Relativement bien, c'est un grand mot. Ça se contrôle
le plus possible.
Des fois. C'est que des fois, ça se contrôle vraiment pas, c'est pour ça. Des fois, ça sort trop vite.
Véronique Quentin, 23
ta
ans.
Ta mère en short.
Diagnostiquée avec le syndrome de la Tourette depuis 2 ans. Merci d'avoir osé, d'avoir pris le temps de venir ce matin nous jaser. Oui, c'était le fun, vraiment. Ouais. Ça faisait tellement longtemps que j'avais ça en tête, tu sais, qu'on puisse démystifier ça. Fait que d'avoir quelqu'un qui est à l'aise de le faire, je trouve ça super.
Ben, merci à vous de m'avoir accueillie. Je suis vraiment contente. Ta gueule.
Ça met-tu un beau point final, ça? Au retour, Pascal CV s'en vient. Sa dernière avant de partir pour le Kilimanjaro.
Yes. Le point de Max.
Elle est tellement dissipée qu'elle dit 11h33. Elle quitte dans les prochaines heures vers Montréal d'abord et pour ensuite se diriger vers le Kilimanjaro. Pascal CV.
Salut Max.
Comment ça va?
Ça va vraiment bien.
Ça va dissiper?
Je suis un peu dissipée. Là, on dirait que je parle aux gens, je suis contente, je suis de bonne humeur.
Ben ouais.
Là, je parlais à Jeff Fortin pour On en jase.
La dernière avec toi.
Hein? Exact.
Avant ton retour,
oui,
évidemment.
Oui, c'est ça. Ça va être super Mathias qui me remplace. Vous n'êtes vraiment pas laissé pour compte. Extraordinaire Mathias qui va prendre ma place avec Jeff Fortin. Il n'y a rien d'autre qui bouge, mais c'est ça. C'est une journée de fébrilité hyper positive. J'ai hâte que ça commence.
Ben,
quand
je comprends donc.
T'en parles depuis un an, tu t'entraînes depuis un an. Il n'y a pas grand-chose de concret jusqu'à temps que tu commences à faire tes bagages, tes pèses. Puis je disais à Jeff, dans les 2 derniers jours, j'étais en psychose. J'essayais de peser mon sac. Puis...
Tu sais quoi le pire là-dedans?
Vas-y.
Ça va être fini dans 2 secondes et demie. Tu vas être revenu, ça va avoir passé tellement vite.
Ah, oh, le voyage!
Ouais.
Je pense... OK. J'avais un sujet de Donald Trump, là. Je le mets juste de côté pour l'instant. Au pire, j'en parle le midi. Mais il y a de quoi de spécial quand tu fais un voyage que je ne sais pas si vous vivez vous aussi. Mais tu pars en voyage, puis effectivement, à un moment donné, tu reviens, puis tu te demandes si tu l'as réellement vécu. Puis tu sais, c'est de l'investissement financier, c'est des super beaux moments. Mais quand tu pars, puis tout est organisé, puis tes journées sont à la minute près. Et
ah, ça autre, roule.
Tu reviens, puis t'es comme déphasé. Tu te demandes si tu l'as vraiment vécu.
Ben, le fameux blues d'après-voyage aussi, c'est 3 semaines que tu pars.
Oui, environ. Un petit peu moins, mais oui.
Ça va tellement aller vite, puis là, ouais. Tu vas revenir. Puis les premiers jours, tu vas tellement avoir vécu en même temps quelque chose d'intense que tu vas être déphasé. Là.
Peut-être que je vais revenir chaman avec des rastas. Là. On ne sait pas ce qui va se passer. Parce que Max...
Tu vas peut-être décider de rester là-bas?
Ça me surprendrait. Okay. Pas que j'aime pas l'Afrique, mais pour y avoir été une fois, mais un petit peu plus Afrique du Nord, on est loin de ce que l'on connaît. J'ai hâte de voir... OK, on va prendre le temps pour ça.
Parfait. Bien correct.
J'ai hâte de voir aussi, puis là, tu vas me reconnaître, la présence chinoise en Afrique. Parce qu'il y a énormément de Chinois depuis plusieurs années. Ils ont investi beaucoup pour des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, des ci, des ça. Je ne le verrai pas sur le Kilimanjaro, mais quand on arrive, on a 2 jours d'acclimatation à l'altitude, ce qui est très court, mais qui est mieux que rien. Ensuite, on part pour le genre de 10 jours de trek et on n'aura pas de réseau. Mais à travers ça, l'ascension, je veux voir c'est quoi la culture, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a changé. Parce qu'on sait qu'il y a une économie chinoise très importante. On leur donne tout ce qui leur manque, puis on va chercher des minerais, des minéraux. Fait que vous savez que moi, ça va m'intéresser. Mais sinon, pendant l'ascension, Max, aucun réseau.
Aucun, là.
Je pense que ça va être la seule fois de ma vie que ça risque d'arriver. On est rendu branché partout. Maintenant, tu as les satellites d'Elon Musk, t'as tout, là. Tu as même ton téléphone cellulaire qui peut se connecter dans des endroits où tu n'as pas de réseau avec les satellites. Est-ce que je vais être capable? Je ne sais pas. Est-ce que je vais le faire? Sûrement que non. Mais ça va être la seule fois dans ma vie où je vais revivre un genre des années 90, quand tu quittais la maison, tu avais ton téléphone fixe qui te quittait aussi. Donc, aucune façon de rejoindre ton monde, à part Padgett et autres, mais tu sais... C'était pas la normalité, là.
Tu vas jaser avec nous à quelques reprises.
Trois fois.
Mais à part ça, ça va être le seul contact avec la société, là.
Oui, puis ça va être calculé parce qu'on a un téléphone satellite, Joanie, de Weekend et moi. Puis effectivement, on va parler dans le show du matin avec toi, Jeff Fortin et Yannick. Mais trois fois seulement, à quelques minutes seulement aussi calculées, parce qu'on a 70 minutes à séparer à deux. Ça veut dire que je ne peux pas vous dire
70 minutes total.
Au total, pour toute l'expédition, ça veut dire, tu sais, on a des 10 minutes chaque, puis on l'a séparé en trois fois. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que je ne peux pas vous dire quand je vous appelle. Là, on a choisi probablement certaines dates, genre le 30 septembre, le 2 octobre et le 6 octobre. 6 octobre, journée du sommet.
OK.
Mais encore là, autour de l'heure de 8 à 9.
Ça va-tu aller moins vite que prévu?
Y a-tu des problématiques? Je vais-tu être capable de vous appeler malgré le téléphone satellite? Va-tu avoir une embûche? On va-tu avoir assez d'oxygène? On va avoir une euphorie au sommet, mais on manque d'oxygène quand même. On ne peut pas rester là très longtemps à 6000 mètres. Ce n'est pas bon pour le corps. Donc, quand je vais vous appeler, ça va être un peu une surprise pour vous aussi, malgré que ce soit, somme toute, planifié le plus qu'on peut. Mais je ne peux pas vous écrire sur Facebook, je vous appelle là.
Ouais. Fait que même qu'on dit non, on a un invité, appelle-nous à telle heure, ça ne pourra pas marcher de
ça
même.
Ça ne pourra
là.
Pas fonctionner comme ça. On revient à quelque chose d'archaïque, à très humain. Les gens avec qui je passe, c'est des gens d'affaires que je connais un peu maintenant, de la région de Québec. C'est des partenaires aussi à Boulevard. On les aime, on les salue. T'sais. C'est des gens qui travaillent fort ici, puis on paye de notre poche tout ça. Je veux remercier quand même. J'ai des sponsors dans tout ça, des gens qui sont exceptionnels ici à Boulevard, à bas extermination, pièces d'auto économiques. J'ai la fromagerie Victoria, des gens qui ont embarqué là-dedans. Mais ça nous coûte des milliers et des milliers de dollars faire ça, puis on le fait pour la Fondation Cerveau. Il y a comme, je te dis, Max, c'est d'une euphorie exceptionnelle.
Bien, j'espère que tu vas en profiter. On t'écoute tantôt avec Jeff pour ta dernière dans le midi. Puis on écoute Boulevard tout le temps parce qu'on ne sait jamais quand tu vas appeler dans les trois prochaines semaines.
Pendant le show du matin, donc avec toi, Yannick et Jeff Fortin. Puis aussitôt que je peux, je vous envoie des images.
Bien, bon voyage. Amuse-toi bien, Pascal.
Puis on parle de Donald Trump à mon retour, mon ami.
Ben oui, hey, là, t'es... En trois semaines, il y a le temps de se passer des affaires que tu verras pas passer.
Peux-tu
là?
Mettre un genre de cartable avec les choses les plus drôles que tu vas avoir vues dans l'actualité pour moi?
Je vais t'imprimer là, les drôles de nouvelles.
Une revue d'actu?
Merci. Là, tu vas revenir après trois semaines, tu vas faire « Qu'est-ce que j'ai manqué là? »
Vous enverrez ça à Max Larouche, les auditeurs, puis il va me faire une belle revue d'actualité.
Je voulais absolument vous faire rejouer dans le volume au Max, puis ça, le show, le point de Max, ce qui s'est passé ce matin aux alentours de 7h30. On a jasé avec le journaliste Hugo Meunier, qui lui a publié sur un site de rencontre une annonce inspirée par celle de Dominique Pellico, lui qui a été condamné pour avoir invité des hommes à violer sa femme endormie. Et là, ben le résultat de tout ça, je vais le laisser vous le raconter lui-même avec Marceau ce matin. C'est triste, c'est sombre, c'est troublant. La rue de la Faune.
Connais-tu l'affaire Pellico, Jeff?